Bonjour le monde aujourd'hui, Eric Mandakiza avec vous depuis le studio 8 de La Voix de l'Amérique à Washington DC. Bienvenue dans cette édition du mercredi 27 mars 2024. Voici d'abord les principaux titres. Au Mali, les militaires au pouvoir ont interdit à Bamako une coalition d'opposants récemment créée, invoquant des menaces de troubles à l'ordre public. Le chef du régime militaire au Niger s'entretient au téléphone avec le président russe pour renforcer la coopération sécuritaire. Les missions d'observation déployées au Sénégal par la CEDEAO et l'Union européenne saluent le bon déroulement de la présidentielle. Les députés togolais adoptent une nouvelle constitution donnant désormais le pouvoir au Parlement d'élire le président de la République.
Il s'agit de repenser les socles d'une démocratie à même de garantir une représentation fidèle de la volonté du peuple togolais.
La justice française vise toujours Agathe Habyarimana pour son implication présumée dans le génocide rwandais. Aux États-Unis, suspension des recherches autour du pont effondré de Baltimore. 6 personnes sont présumées mortes.
Parce que c'est le pont que la plupart des transports utilisent. C'est un pont qui a été construit depuis 1977. Une plaque tournante pour le transport maritime sur la côte est.
Un habitant de Baltimore ne manque pas notre page sport ainsi que la Minute Echo. Pour l'instant, le journal. Au Mali, après la vague de dissolution ayant frappé des organisations politiques et de la société civile, le gouverneur du district de Bamako a annoncé hier mardi l'interdiction des activités de la Synergie d'Action pour le Mali, une nouvelle coalition de partis politiques. Mohamed Danyoko pour plus de détails.
Le gouvernorat du district de Bamako, dans un communiqué en date du 25 mars, interdit toutes les activités de la Synergie d'Action pour le Mali. Le gouvernorat justifie cette décision par le contexte sécuritaire et des risques de troubles à l'ordre public que pourraient occasionner les activités de cette entité. La Synergie n'a pas mis longtemps à réagir. En effet, en début d'après-midi, hier mardi 26 mars, elle dit rejeter cette décision, je cite, illégitime et illégale, qui viole, selon elle, la liberté d'expression et d'association qui sont garanties par la Constitution. La Synergie, dans son communiqué, a aussi rappelé que la transition en cours devrait théoriquement prendre fin hier, mardi 26 mars, conformément au décret numéro 2022-0335/PTRM du 6 juin 2022 qui stipule que la durée de la transition est fixée à 24 mois pour compter du 26 mars 2022 au 26 mars 2024. Face à cette situation qui, selon la Synergie, plonge le pays dans un vide juridique, elle demande la mise en place d'une transition civile. À noter que la CMAS de l'imam Mahmoud Diko, dissoute le 6 mars dernier, fait partie des organisations qui constituent la Synergie d'Action pour le Mali. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Le chef du régime militaire au Niger, le général Abdelrahman Tchiani, s'est entretenu hier mardi au téléphone avec le président russe Vladimir Poutine pour discuter notamment du renforcement de leur coopération sécuritaire pour faire face aux menaces actuelles, indique un communiqué officiel nigérien. Le général Tchiani a exprimé ses remerciements pour le soutien de la Russie apporté au Niger et à la lutte de Niamey pour la souveraineté nationale, d'après la même source. Un communiqué du Kremlin rapportait que les deux parties ont exprimé leur disposition à activer un dialogue politique et à développer une coopération mutuellement avantageuse dans divers domaines. Un échange de points de vue sur la situation dans la région du Sahara et du Sahel a également été mené en mettant l'accent sur une coordination des actions pour assurer la sécurité et la lutte contre le terrorisme, a indiqué Moscou. Les missions d'observation déployées au Sénégal par la CEDEAO et l'Union européenne saluent le bon déroulement de la présidentielle de dimanche, remportée par l'opposant Bassirou Diomaye Faye. Les deux institutions l'ont fait savoir hier à Dakar lors de deux rencontres distinctes avec la presse. Davantage de détails avec Nanit Talani.
Le scrutin s'est généralement déroulé sans heurts et dans une atmosphère largement pacifique, a déclaré Ibrahim Gombari, chef de la mission de la Communauté des États ouest-africains, lors d'une conférence de presse à Dakar. De son côté, la chef de la mission de l'Union européenne, Malin Björk, a évoqué une élection bien organisée et ouverte qui a montré la solidité des institutions démocratiques sénégalaises. C'était lors d'une rencontre distincte avec les journalistes. Dans l'ensemble, le scrutin a été bien organisé. Les électeurs ont pu faire leur choix librement dans une ambiance paisible et ordonnée, a-t-elle précisé. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avait déployé 130 observateurs et l'Union européenne 100. Les résultats provisoires devraient être publiés cette semaine, mais les adversaires de Bassirou Diomaye Faye et le chef de l'État sortant, Macky Sall, ont déjà reconnu sa victoire. Diomaye Faye a promis d'œuvrer à des changements au sein de la CEDEAO. Je lance un appel à nos frères et sœurs africains pour qu'ensemble, nous consolidions les acquis obtenus dans les processus de construction de l'intégration de la CEDEAO tout en corrigeant les faiblesses et en changeant certaines méthodes, stratégies et priorités politiques, a-t-il dit hier.
En Tunisie, l'ex-président d'une association d'étudiants africains subsahariens, très actif il y a un an face à une campagne anti-migrants, a été arrêté par les autorités, a annoncé le groupe hier mardi. L'association a alerté dans un communiqué sur la disparition de l'étudiant camerounais Christian Kwangang depuis le 19 mars après qu'il s'est rendu dans un poste de police pour récupérer sa carte de séjour. La justice française a toujours en ligne de mire le cas d'Agathe Habyarimana, veuve du président du Rwanda, mort en 1994, visée par des investigations pour son rôle présumé dans le génocide des Tutsis. C'est ce qu'a indiqué à le procureur antiterroriste Jean-François Ricard. Lionel Runaniragahima.
C'est un dossier qui fait partie des plus complexes que nous avons toujours en ligne de mire. Nous ne perdons pas du tout de vue ce dossier, a déclaré le magistrat qui s'est rendu au Rwanda mi-mars à l'approche de la commémoration des 30 ans du génocide contre les Tutsis. L'assassinat le 6 avril 1994 du président Hutu Juvenal Habyarimana, tué dans l'attentat contre son avion, avait déclenché les massacres contre la minorité Tutsi. Sa veuve, née Agathe Kanziga, est accusée de complicité de génocide et de crimes contre l'humanité depuis une plainte déposée en France en 2007 par le collectif des partis civils pour le Rwanda, CPCR. Une enquête a été ouverte en 2008. Aujourd'hui, âgée de 81 ans, elle est présentée par ses accusateurs comme l'une des dirigeants de la CASU, le premier cercle du pouvoir Hutu qui aurait orchestré le génocide. Elle réfute ces accusations. Elle avait été exfiltrée le 9 avril 1994 en Europe avec sa famille à la demande du président français François Mitterrand, proche de son mari.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, les secours ont suspendu hier soir les recherches autour du pont de Baltimore qui s'est effondré la nuit précédente après avoir été percuté par un porte-conteneur. Les autorités américaines estiment que les 6 personnes disparues sont désormais présumées mortes. Yacouba Ouedraogo.
Sur la base de la durée des recherches effectuées, de la température de l'eau, à présent nous n'estimons pas que nous trouverons ces individus encore en vie, a déclaré le vice-amiral des gardes-côtes Shannon Gilreff, invoquant la marée et les courants qui rendent le travail des plongeurs dangereux. Depuis l'effondrement du pont autoroutier Francis Scott Key, dans le port stratégique de Baltimore, sur la côte est américaine, les autorités ont déployé de nombreux moyens par air, sur terre, en mer et même sous l'eau, retrouvant 2 rescapés. Les victimes sont visiblement des ouvriers des travaux publics qui travaillaient sur le pont. La police dit avoir écarté a priori un acte terroriste. Des images de vidéosurveillance montrent le porte-container MV Dali dévié de son cap et heurté une pile de ce pont inauguré en 1977. Le président Joe Biden s'est engagé à ce que le pont soit reconstruit, admettant que cela prendrait du temps. Ce pont à 4 voies, long de 2,6 km, est situé sur un axe crucial pour l'économie de la côte est des États-Unis. Le transport maritime y est suspendu jusqu'à nouvel ordre.
Les États-Unis ont annoncé hier mardi qu'ils continueraient à parachuter de l'aide humanitaire sur la bande de Gaza malgré l'appel du Hamas à cesser ses opérations après la mort de 18 Palestiniens, dont 12 noyés en mer, en essayant de récupérer des colis de nourriture. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco présentée ce matin par Jacques Aristide.
Bassirou Diomaye Faye, vainqueur de la présidentielle au Sénégal, promet une réforme monétaire, voire la création d'une monnaie nationale à la place du franc CFA hérité de la colonisation dans plusieurs pays africains. Il a souligné durant la campagne que cette mesure, vue avec appréhension dans les milieux économiques, ne serait pas immédiate et ne s'effectuerait que sous certaines conditions strictes. L'idéal serait de le faire dans le cadre de la CEDEAO avec l'ECO, le projet de monnaie unique ouest-africaine qui tarde à aboutir. Le ministre des Finances du Ghana, Mohamed Amin Adam, a déclaré ce mardi que le gouvernement souhaitait accélérer les négociations sur la restructuration de la dette. Ce pays d'Afrique de l'Ouest est actuellement en pourparlers avec des investisseurs étrangers pour restructurer environ 13 milliards de dollars d'obligations. Le Ghana a fait défaut sur la majeure partie de sa dette extérieure de 30 milliards de dollars en décembre 2022 après une montée en flèche des coûts de la dette et de l'inflation. Dans le rouge en 2023, le groupe informatique français Atos, en pleine crise financière, vise désormais un accord global pour restructurer son importante dette d'ici juillet, mais assure que son rôle de prestataire des Jeux Olympiques de Paris sera tenu sans aucun souci. Entré dans une procédure amiable de conciliation avec ses créanciers depuis février, cet ex-fleuron de la tech, qui a échoué ces dernières semaines à boucler la vente de plusieurs activités pour récupérer de l'argent frais, a indiqué mardi disposer de 2,4 milliards d'euros de trésorerie, un montant suffisant pour couvrir ses besoins de liquidité jusqu'à l'obtention potentielle de cet accord.
En transition, nous passons à votre page des sports avec Nanit Talani. Bonjour Nanit.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Commençons par les FIFA Series et cette victoire de la sélection malienne sur le Nigeria qui s'est jouée au Maroc.
Rappelons d'abord que les FIFA Series sont une compétition biennale de football de la FIFA qui présente des matchs amicaux internationaux entre équipes nationales de différentes confédérations et qui ont lieu en mars de chaque année paire. Les Aigles du Mali se sont imposés grâce à deux buts de Touré et de Doumbia lors de ce match disputé à Marrakech au Maroc.
Et match nul entre l'Ouganda et le Ghana, toujours au Maroc.
Cette rencontre se jouait au grand stade de Marrakech au Maroc. L'Ouganda a tenu le Ghana à égalité, mettant fin aux espoirs des Black Stars de se remettre de leur revers de vendredi dernier contre le Nigeria. Pour ces prochaines rencontres, le Ghana affrontera le Mali et la République centrafricaine lors des éliminatoires de la Coupe du monde de la FIFA 2026.
Nul partout entre l'Algérie et l'Afrique du Sud, qui jouaient aussi lors d'un match amical international dans le cadre des FIFA Series hier.
Ce match s'est terminé par un nul 3-3 au stade Nelson Mandela de Baraki à Alger. Les deux équipes joueront ensuite en juin lors du tour de qualification pour la Coupe du monde 2026. L'Afrique du Sud affrontera le Nigeria et le Zimbabwe, tandis que l'Algérie jouera contre la Guinée et l'Ouganda.
Enfin, des sifflets pour Mbappé au Vélodrome. C'était hier. L'équipe de France jouait contre le Chili.
La star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, a été sifflé au stade Vélodrome lors du match amical France-Chili 3-2. C'était hier, à 5 jours du Classico de Ligue 1 contre l'Olympique de Marseille. Le capitaine des Bleus avait prévenu la veille qu'il comprendrait si le public marseillais le sifflait. « Je vais donner le meilleur de moi-même. Pour être honnête, je comprendrai si je suis sifflé. Il y a un Classico dimanche, je suis joueur du PSG. Si je suis sifflé, c'est la vie. Je ne le prendrai pas personnellement », avait-il dit. L'accueil a été houleux également pour un autre attaquant parisien, Randal Kolo Muani, accueilli par des sifflets à l'annonce de la composition des équipes. Sa sortie à la 82e minute a été aussi accompagnée par une bronca malgré le très bon match du joueur du PSG, auteur d'un but et d'une passe décisive.
Page des sports, signé Nanit Talani.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manilakiza de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Togo, les députés ont adopté une nouvelle constitution instaurant un régime parlementaire intégral. Elle introduit un poste de président de conseil élu par l'Assemblée pour 6 ans, conférant un pouvoir exécutif prépondérant. Le président de la République, qui sera élu par le Parlement, ne disposera que d'un rôle symbolique. De Lomé, notre correspondant Kossi Wousou.
89 députés sur les 91 que compte l'Assemblée nationale ont voté pour l'adoption de la nouvelle constitution togolaise. Pour Tiegan Yawa, la présidente de l'institution, cette révision est le fruit d'une réflexion endogène pour corriger les faiblesses constatées dans la vie des institutions de la nation.
De ces constatations, la démarche de révision constitutionnelle tient sur 3 grands axes. Consolider les bases d'une démocratie plus moderne et plus respectueuse de l'équilibre des pouvoirs, préserver la stabilité gouvernementale et adapter une gouvernance plus efficace du Togo aux évolutions sociopolitiques. Il s'agit de repenser les socles d'une démocratie à même de garantir une représentation fidèle de la volonté du peuple togolais, tout en assurant une stabilité nécessaire à la modernisation et au développement durable du Togo.
La nouvelle constitution fait basculer le Togo dans un régime parlementaire qui enchante Isaac Tiakpé de l'Union des Forces de Changement, un parti de l'opposition parlementaire.
Bien sûr, comparaison n'est pas raison. Les expériences de régime parlementaire, notamment en Angleterre ou en Allemagne, nous prouvent que c'est la meilleure manière d'enraciner la démocratie, c'est la meilleure manière d'asseoir le débat. C'est un espace de proposition, de discussion. Et je pense que si nous voulons construire des démocraties avec des institutions fortes, pourquoi pas essayons ce nouveau régime. Et à l'expérience, on pourra toujours aviser.
Maître Dodia Pévon, des Forces démocratiques pour la République, se dit indigné et scandalisé par cette révision constitutionnelle et appelle au secours.
Nous devons saisir tous ceux qui peuvent nous venir en aide dans ce combat, qui peuvent être indignés parce ce qu'on est en train de faire chez nous au Togo. Ce n'est pas normal ce qui se passe chez nous. On doit saisir toutes les organisations qui luttent pour une démocratie paisible. En Afrique, on doit les saisir pour mener ce combat-là avec nous, pour que ce pouvoir nous colle la paix.
Jérôme Sossou, un citoyen togolais, pense que tout ceci est fait pour favoriser l'actuel président de la République, Faure Gnassingbé, à demeurer éternellement au pouvoir. Il l'invite à ne pas promulguer cette révision constitutionnelle.
On veut carrément changer la constitution pour que le prince devienne complètement roi. Moi, je voudrais interpeller le chef de l'État, puisque à mon avis, je pense que c'est dans son intérêt qu'on est en train de faire tout cela. Et moi, je voudrais lui dire d'arrêter ou de faire arrêter ce projet, parce que ça n'honore pas quand même le pays.
Tous les regards sont donc tournés vers le président de la République. Il a 15 jours pour promulguer ou pas la nouvelle constitution. Kossi Wousou, Lomé pour VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Cette semaine, gros plan sur l'élection présidentielle au Sénégal et la victoire reconnue dès le premier tour de l'opposant Bassirou Diomaye Faye, décrit comme le plan B du charismatique Ousmane Sonko. Est-ce un véritable séisme politique qui vient de se produire dans ce pays, réputé pour sa stabilité en Afrique de l'Ouest? Quels sont les défis qui attendent celui qui va devenir le plus jeune chef de l'État sénégalais? Quel rôle pour son guide Sonko? En quoi leur vision pour un panafricanisme de gauche pourrait-elle redéfinir les relations de Dakar avec ses partenaires internationaux? Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Au Burkina Faso, le cancer du sein est devenu un problème majeur de santé publique selon les professionnels de la santé. Il demeure la principale cause de mortalité et le cancer le plus répandu. incitant les étudiants en médecine à approfondir leurs recherches sur la maladie, comme vous le suivrez dans ce reportage. De Ouagadougou, les précisions de notre correspondant Lamine Traoré.
Il vous a déclaré admis avec la mention très honorable et les félicitations du jury.
À l'université de Ouagadougou, un étudiant vient de décrocher son diplôme de docteur en médecine. Il a travaillé sur le bilan d'extension initiale du cancer du sein à Ouagadougou. Son étude multicentrique a porté sur plus de 500 cas de cancer du sein dans trois grands hôpitaux de la capitale Ouagadougou. Ahmed Kour, le nouveau docteur d'État en médecine.
C'est une pathologie qui n'est pas facile. Lorsqu'une femme est atteinte, elle est financièrement déboussolée puisqu'il faut faire un bilan diagnostique. Il faut aussi faire des examens biologiques et des examens d'imagerie. Et aussi, je voyais qu'il y avait un examen très important pour la stadification du cancer du sein qui s'appelle la TEP scanner, qui n'est pas disponible au Burkina Faso. C'était pour moi de mener mon étude pour pouvoir faire des plaidoyers auprès des ministres en charge de ces différentes questions pour que ces examens soient disponibles dans notre contexte. Une femme qui est atteinte du cancer du sein, pour une prise en charge efficace, elle n'a pas moins de 2 millions à dépenser.
Docteur Benildo Tiemtoure Kambou, maître de conférence agrégé en imagerie médicale et radiologue interventionnel, chef de service d'imagerie médicale du Centre hospitalier universitaire de Bogodogo, a dirigé la thèse de l'étudiant.
Nous avons parlé du bilan d'extension initiale du cancer du sein. Donc c'est une thématique qui est d'actualité parce que le cancer du sein est un problème de santé publique. Et quand on découvre un cancer du sein, il faut d'abord faire un bilan pour voir qu'est-ce qui se passe dans l'organisme avant de commencer un traitement.
Au sein des membres du jury, des spécialistes du sein, comme le professeur Naï Zongo, chirurgien oncologue, maître de conférence agrégé au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo. Il est impliqué dans la prise en charge du cancer du sein au Burkina Faso.
Le cancer du sein, c'est une femme sur 8 au cours de sa vie. Le cancer du sein, c'est la première cause de mortalité, c'est le cancer le plus fréquent. Quand on vient au niveau du Burkina Faso, le cancer du sein, c'est 55% de l'ensemble des cancers féminins. Et le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent devant le cancer du col de l'utérus. Actuellement, on diagnostique 2 cancers du sein pour un cancer du col de l'utérus.
Selon les spécialistes, le cancer du sein tue et en majorité des jeunes. Lorsqu'une femme atteint 40 ans, elle doit faire une mammographie pour connaître son statut. Conseille les spécialistes qui précisent que lorsque la prise en charge du cancer du sein est précoce, cela permet à ces femmes d'y guérir. L'État fait des efforts dans la sensibilisation, mais aussi dans la démarche diagnostique par les équipements des hôpitaux. Il subventionne la prise en charge car, selon les professionnels, opérer un cancer du sein est 3 à 4 fois moins cher chez l'État que dans le privé. Reste que l'État doit s'organiser de sorte à ce que toutes les femmes puissent avoir accès aux soins. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
En RDC, dans les Grands Lacs, les déplacés internes vivant dans des camps en territoire de Lubero, dans la province du Nord Kivu, sont confrontés à une crise sanitaire grave. La pénurie des médicaments menace plusieurs centres de santé et la détérioration des conditions de vie a déjà entraîné plus de 10 décès depuis le début de ce mois de mars. Reportage de notre correspondant Zanem Netizaidi.
La situation humanitaire des déplacés est d'abord décriée par l'administrateur militaire du territoire des Lubero, le colonel Alain Kiweya.
Certains sont dans les familles d'accueil, dans les églises, et certains sont dans les écoles. Et à Kanyabayunga, vous savez qu'il y a un problème aussi d'addition d'eau, et ils vivent dans des situations très difficiles.
Depuis l'arrivée massive de ces déplacés, fuyant la guerre du M23 dans les territoires des Rutshuru le 7 mars dernier, plus de 10 déplacés ont déjà perdu la vie suite au mauvaises conditions de vie dans différents sites en territoire des Lubero, affirme Jonathan Tsongo, l'un des représentants des déplacés.
Depuis le début de ce mois de mars, on a déjà identifié plus de 12 morts. La plupart sont les femmes et enfants. Pour l'instant, aucun aide n'est encore arrivé. C'est vraiment nous appeler au gouvernement de pouvoir intervenir le plus tôt possible afin que cette situation puisse prendre fin.
À la suite de la fermeture de la route Lubero-Goma et l'absence des partenaires, 14 des 23 aires de santé que compte la zone zone de santé de Kaina, en territoire de Lubero, risquent de voir leur dépôt à médicaments se vider, alerte le docteur Aloïs Maliabouana, médecin-chef des zones qui appelle à l'aide.
Nous avons enregistré même des malades qui étaient obligés d'être soignés gratuitement vu la vulnérabilité. Nous vivons de l'autofinancement dans les 14 centres de santé non appuyés. Le stock est en train d'être épuisé et surtout qu'il n'y a pas de financement qui vient de l'extérieur. Il fallait vraiment l'urgence et appuyer les centres de santé par médicaments.
La zone de santé de Kaina est débordée depuis l'arrivée massive des déplacés en provenance des territoires de Rutshuru et Masisi, fuyant les combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Zanem Netizaïdi à Goma pour VOA Afrique.
Salut! Retrouvez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique tous les samedis, dimanches et mercredis à 8h30 temps universel. Votre rendez-vous hebdomadaire qui vous permet de mieux connaître les maladies et les dernières nouvelles concernant la santé dans votre région grâce à l'intervention des médecins et d'autres professionnels de santé ainsi que les témoignages des patients. N'oubliez pas, votre santé, votre avenir, c'est tous les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel sur VOA Afrique.
Le pont qui s'est effondré hier au sud-ouest de Baltimore, grande ville industrielle et portuaire américaine dans l'état du Maryland, perturbe considérablement le transport. Sa fermeture affecte gravement les déplacés et les déplacements quotidiens de milliers de personnes, contraintes d'emprunter des itinéraires détournés, plus longs et congestionnés. Nani Tetalani a recueilli le témoignage d'Amadou Touré, entrepreneur d'origine malienne qui vit à Baltimore.
Je suis un résident de Baltimore. J'ai utilisé le pont rarement, mais j'ai un pont que je connais. L'importance de ce pont-là, c'est parce que c'est dans la zone industrielle de Baltimore. C'est tout le transport des marchandises. C'est ce qui se passe par là-bas en réalité. Ça va vraiment jouer sur le transport ces deux jours à Baltimore. Ça va vraiment jouer sur le transport. Surtout les marchandises.
Il y a aussi parfois des individus qui passent.
Tout à fait. Les travailleurs de cette zone. Ça va beaucoup. Il va avoir des effets quand même graves.
Est-ce que l'incident pourra impacter aussi l'économie locale?
Tout à fait. Beaucoup jouer sur l'économie locale. Ça va vraiment ralentir le transport à Baltimore parce que c'est le pont que la plupart des transports utilisent. C'est un pont qui a été construit depuis 1977. Une plaque tournante pour le transport maritime sur la côte est. Donc ça va vraiment ralentir les choses pendant quelques mois. Et le gouverneur a déjà déclaré state of emergency, je veux dire.
L'état d'urgence,
voilà.
Et c'est un pont que vous utilisez souvent, que vous avez déjà utilisé. Alors, comment est-ce que cet effondrement va affecter vos déplacements quotidiens et même les déplacements de vos voisins ou des habitants de Baltimore et de la région?
Bon, en fait, c'est un pont qui est utilisé par les cargos, en réalité. C'est vers la zone industrielle de Baltimore. Donc, c'est le transport public des citoyens. Je ne pense pas s'ils seront affectés parce que c'est les grands camions, les navires qui passent par là-bas, en fait.
Amadou Touré, entrepreneur d'origine malienne, résident à Baltimore. Le Monde d'aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Maniakiza à ce micro, Fatouma Alimas Kalala a assuré la production et la réalisation. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur votre site internet voafrique.com et vos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes et à la prochaine.